catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur.
Merci d'être au rendez-vous, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria. C'est bien l'émission La Catéchèse, l'heure de l'enseignement. Nous avons donc démarré. Nous saluons le Père Roger qui est avec nous. Bonjour Père.
Bonjour Maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour aussi encore une fois de plus à Jérès qui est à la réalisation. Nous allons prier et juste après, le Père va aborder l'espérance comme vertu théologale. Merci, Jérès Vangou, pour ces cantiques à l'esprit. Père Roger, à vous la parole.
Merci beaucoup, Maman Régine. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence bleue, fréquence mariale, fréquence ecclésiale, fréquence doctrinale, fréquence de proximité. Que la paix du Seigneur soit avec vous là où vous nous suivez. L'espérance comme vertu théologale. Nous avons commencé cette série de catéchèses sur les vertus théologales. Après les vertus théologales, ce sera la vertu cardinale. Et quant aux vertus théologales, nous avons parlé de la foi la semaine passée. Et aujourd'hui, logiquement, c'est l'espérance. Parce que dans 1 Corinthiens 13, Paul suit cette nomenclature-là. La foi, l'espérance et puis la charité. Donc, après la foi, voici l'espérance. Et d'abord, chez le peuple juif, dans l'Ancien Testament, l'espérance, c'est quoi? L'espérance est essentiellement l'espérance messianique. C'est-à-dire, on espère que le Messie viendra. Tout est parti des contextes historiques où le peuple se trouvait en difficulté parce que le roi n'a pas accompli ses devoirs comme il se doit. Le roi n'a pas été fidèle. La conséquence, c'est que c'est la souffrance pour les royaumes. Tantôt, on perd la Terre Sainte, on va en exil. Et tantôt, ils sont envahis par des voisins qui les mettent en difficulté. Alors, au regard de tout cela, le peuple a commencé à nourrir ce qu'on appelle l'espérance messianique. Le peuple espère qu'il y aura un roi qui viendra. Et ce roi-là sera un roi fidèle à Dieu, un roi qui s'occupera de son peuple, c'est-à-dire du peuple de Dieu. L'espérance d'un roi pasteur, un roi qui s'occupe du peuple de Dieu, qui est capable de se sacrifier pour le bien de ce peuple. Et les rois devraient avoir comme modèle David. Et d'où le messianisme. Le messianisme est accompagné de l'espérance. Espérance messianique, c'est-à-dire le peuple croit au-delà des difficultés qu'il a, au-delà de tous les problèmes qu'il a avec le peuple voisin, avec tant d'autres aléas, pesanteurs de la vie, crise sociale, crise économique. Au-delà de tout cela, le peuple espère que Dieu leur enverra un roi qui sera le Messie. Messie, Machia, c'est-à-dire Ouin, le roi qui est Ouin, il a reçu l'onction royale pour s'occuper de son peuple. Et donc, c'était ça. Le peuple n'espère pas manger mieux, il n'espère pas dormir mieux, il espère qu'il y aura le Messie qui viendra, et dès que le Messie viendra, il y aura des conséquences positives sur le plan social. Il va bien manger, il va répondre à ses besoins fondamentaux comme il se doit. Donc, c'est ça un peu ce qu'on peut dire dans les contextes, notamment de l'Ancien Testament. L'espérance, c'est cela. On espère que le Messie viendra. Au-delà de la souffrance, de l'insécurité, des temps de problèmes, on espère que le Messie viendra. Et quand il viendra, la situation va changer sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique. Il y aura des changements profonds dans la société. C'est ça l'espérance. Alors, cette espérance a pris plusieurs expressions parce que le peuple a compris que espérer ne signifie pas qu'il faut seulement prier, croiser les bras pour que les miracles tombent du ciel. Espérer, c'est prier, supplier Dieu pour que le Messie vienne, pour que la promesse de Dieu se réalise ou pour que les promesses de Dieu se réalisent. C'est ça espérer. Il faut prier. Celui qui espère prie. Mais Le peuple juif a compris qu'il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas d'aller pleurer au mur des lamentations pour que le Messie vienne. Il faut aussi travailler à l'avènement du Messie. Alors, voilà pourquoi cette espérance messianique va se concrétiser à travers certaines pratiques. Ça dépend d'un courant religieux à l'autre. Il y a des courants religieux eschatologiques, n'est-ce pas, avec le scribe, les baptistes et même les zélotes. Alors, dans ce courant-là, vous avez notamment les pharisiens. Les pharisiens, pour eux, pour que le Messie arrive, il faut prier, il faut supplier Dieu, il faut espérer que Dieu va envoyer le Messie, mais il faut aussi se purifier. Il faut être pur. Et d'où les ablutions rituelles, toutes les pratiques consistant à se purifier. Parce que quand on est pur, eh bien Dieu va réaliser sa promesse. D'où la pratique du jeûne. Ils vont jeûner. Ils jeûnent pour que leur espérance porte des fruits. Le jeûne est lié à l'espérance. Parce qu'on espère, on jeûne. Pour montrer à Dieu que voilà, je me sacrifie parce que je veux que ce que tu nous as promis puisse se réaliser. Ça, c'est du côté des scribes. Vous avez aussi de groupes religieux, des mouvements religieux qui vont développer aussi, malheureusement, bon, dans les contextes de l'époque, on peut le comprendre, ils développent même la violence. Parce que pour que les messies viennent, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui sont des traîtres. C'est-à-dire qui collaborent avec l'occupant romain, ou encore, il ne faut pas qu'il y ait des Romains, n'est-ce pas, et tant d'autres peuples païens qui sont en train de polluer la Terre Sainte, de polluer la ville, et donc il faut maintenant les maîtriser. S'il faut les tuer, il faut les tuer. C'est ce que les Maccabées ont fait, et c'est ce que les Zélotes aussi feront. Donc, à cause de l'espérance messianique, ils sont prêts à utiliser des armes pour éliminer ceux qui seraient des obstacles à la réalisation de cette espérance. Ça, c'est dans le contexte du peuple juif au 1er siècle. On retient ceci. Ils espèrent. Leur espérance a comme objet la promesse de Dieu consistant à leur envoyer le Messie. Donc, c'est l'espérance messianique qui les nourrit. Et, deuxièmement, cette espérance ne se limite pas à la prière. Cette espérance implique un engagement concret. Alors les scribes, notamment les pharisiens, s'engagent à rester purs, à se purifier, à montrer à Dieu que voilà, nous évitons les péchés, nous faisons tout pour être saints, ça c'est ce que nous faisons, et de ton côté, envoie-nous le Messie. Il y a aussi l'espérance vécue par le mouvement baptiste, notamment Jean-Baptiste, pour lui, pour que le Messie vienne, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se faire baptiser. En se faisant baptiser, on se purifie de péché, on se convertit et ça dispose justement le cœur à accueillir le Messie. Tout cela fait partie de l'espérance messianique de l'époque. Alors maintenant, dans le christianisme, les christianismes considèrent que l'espérance justement porte sur les promesses de Dieu. Un peu comme chez le peuple juif, comme dans l'Ancien Testament. Nous espérons quoi? Nous espérons que les promesses de Dieu vont se réaliser. C'est ça ce que dit aussi les catéchismes de l'Église catholique. Donc, vous prenez les gros formants à partir de numéro 1817 jusqu'à 1821, on parle de l'espérance. Et l'espérance porte justement sur les promesses de Dieu. Elle ne porte pas sur ce que nous voulons, mais sur ce que Dieu veut. Que ce que Dieu veut se réalise, c'est ça espérer. J'espère que la volonté de Dieu, le plan de Dieu dans ma vie va se réaliser. J'espère que le projet de Dieu dans ma vie va se réaliser. Donc c'est ça l'espérance. Mais l'Église nous recommande aussi des attitudes concrètes. Comme chez le juif, et qui espère doit le montrer par sa façon de vivre. Notamment entretenir une vie spirituelle caractérisée par la pureté et la sainteté. Et dans l'Église c'est la même chose aussi. Qui espère doit se montrer prêt à accueillir les promesses de Dieu, c'est-à-dire à marcher dans la crainte du Seigneur. Alors, le catéchisme dit ceci au numéro 1817, hein, l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons les royaumes des cieux et la vie éternelle comme notre bonheur. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en nous appuyant non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. dont la plus grande espérance pour nous, c'est le ciel. J'espère que j'irai au paradis. J'espère que je vais accéder à la vie éternelle. Je désire les royaumes des cieux et la vie éternelle comme le vrai bonheur, l'unique auquel j'aspire. C'est ça, espérer. Maintenant, cette espérance a des dimensions très pratiques. Pour accéder au règne de Dieu, pour accéder à la vie éternelle, donc voilà, je dois observer la parole de Dieu, je dois suivre ce que l'Église me demande de mettre en pratique, et c'est de cette façon-là que cette espérance portera des fruits. Donc, d'une façon générale, l'espérance, c'est la vertu par laquelle je crois que les promesses de Dieu vont se réaliser. Qu'est-ce que Dieu nous a promis ? Il nous a promis le paradis. Il nous a promis l'amour. Il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous a promis de ne pas nous abandonner. Et j'espère que toutes ces promesses-là de Dieu se réalisent. Dieu a un projet dans ma vie, un projet sur moi. Et j'espère que ce projet va se réaliser. Mais pour que ce projet se réalise, moi-même, je dois faire ma part. Je dois prier, mais je dois aussi faire tout ce que je peux faire pour plaire au Seigneur de façon que ses promesses puissent se réaliser dans ma vie. L'espérance, évidemment, porte des fruits. Quels sont les fruits de l'espérance ? Celui qui espère, persévère. La persévérance, c'est une vertu qui découle de l'espérance. La persévérance est la fille, je dirais même, oui, l'une des filles de l'espérance, parce que la charité vient aussi de l'espérance. Hein. Nous allons voir cela la semaine prochaine. Mais c'est important de dire que la persévérance est l'une des filles de l'espérance. Celui qui espère persévère. Il persévère dans la prière. Si quelqu'un continue à prier sans relâche, c'est parce qu'il espère. Il espère que les promesses de Dieu vont se réaliser. Persévérer dans la crainte du Seigneur. Si quelqu'un continue à marcher dans la crainte du Seigneur, à éviter les péchés, c'est parce qu'il espère. Persévérer dans les biens. Lorsque quelqu'un est fidèle à ses engagements professionnels, familiaux, fidèle à ses engagements par rapport aux plus démunis, il accomplit les œuvres de miséricorde sans relâche. Il s'occupe des pauvres, des malades, des nécessiteux, des prisonniers, des victimes de la guerre, c'est parce qu'il espère. C'est parce qu'on espère qu'on fait les biens. Donc voilà comment l'espérance nous porte, n'est-ce pas, nous pousse à persévérer dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain. Deuxième fruit de l'espérance, c'est l'attachement à Dieu. Qui espère reste attaché à Dieu. Attaché à Dieu dans la foi. Comme je disais il y a quelques jours, la semaine passée, l'espérance fait que la foi soit solide. Parce que la foi, c'est accueillir Dieu, vivre en communion avec lui. Durant les épreuves, je vais persévérer dans la foi si j'espère. Comme il y a l'espérance, je reste attaché à Dieu. Parce que je sais que les promesses de Dieu vont se réaliser. Voilà pourquoi je continue à croire en lui. C'est ça la foi. La foi engendre l'espérance et l'espérance soutient la foi. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, l'espérance est considérée comme tikva, comme nous l'avons dit à maintes reprises, c'est-à-dire la corde qui attache les bateaux à l'ancre. Pour que les bateaux ne soient pas expédiés par le courant marin, il faut de l'ancre. L'ancre qui est sur la terre ferme, mais il faut qu'il y ait une corde qui attache les bateaux à l'ancre qui est posée sur la terre ferme. Et l'ancre, c'est Dieu. La corde, c'est tikva, c'est l'espérance. C'est ce qui nous maintient attachés à Dieu, malgré les épreuves. Même s'il y a la tempête, même s'il y a le courant marin qui voudrait vous éloigner de Dieu, eh bien, vous restez attachés à Dieu, comme les bateaux restent attachés à l'ancre à cause de la corde. Et donc, c'est ça l'espérance. L'espérance, c'est vraiment la corde qui fait que je reste attaché à Dieu. Donc le fruit de l'espérance, c'est aussi l'attachement à Dieu. L'espérance, c'est l'antidote au désespoir. Celui qui espère ne peut pas désespérer. Parce qu'il va espérer contre toute espérance. Hein. En cette année de l'espérance, n'oublions pas, Romains 5:5, l'espérance ne déçoit pas. C'est ça un peu le thème de cette année de l'espérance, pèlerin de l'espérance, avec le pape François d'heureuse mémoire qui nous a laissé un texte très intéressant, pour ne pas dire toute cette année jubilaire, c'est lui qui l'a commencé, ce sera clôturé par son successeur, par celui qui vient après lui, le pape Léon XIV, mais François avait commencé. Donc c'est le pape de l'espérance et il nous a rappelé cela dans l'espérance ne déçoit pas, espérer contre toute espérance. C'est-à-dire là où les calculs humains sont pessimistes, eh bien, l'espérance ne cède pas, ne cède pas au pronostic humain. L'espérance continue à croire que les promesses de Dieu se réaliseront. L'espérance, c'est aussi l'antidote, et je veux conclure par là, au découragement. Les découragements. Parfois, on se décourage, on n'y croit plus. On voudrait même laisser la prière. On a fait beaucoup de bien aux gens, mais on a récolté l'ingratitude, le manque de reconnaissance. On voudrait se décourager, on voudrait prendre comme décision de ne plus faire le bien. Mais quand on espère, celui qui a l'espérance ne peut pas se décourager. Il continue à espérer parce qu'il sait que Dieu ne se trompe pas, Dieu ne nous trompe pas. Ce qu'il veut faire pour nous, il le fera et il finira par le faire. Merci.
Merci Père pour ces enseignements sur l'espérance. Jérès Vangou va nous aider avec un chant avant d'ouvrir le téléphone.
Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance là où il est, là où il vit.
Merci beaucoup pour ces très beaux chants de Jean-Claude Guyanada sur l'espérance, auditeur, auditrice de Radio Maria. C'est la partie interactive, questions-réponses si on le veut. Nous rappelons le numéro 081 99 66 098. Le premier intervenant, c'est bien Arsène Ika. Merci Père pour cette catéchèse. Si je vous ai bien compris, l'espérance comme vertu théologale est une certitude, tandis que l'espoir est humain. Et peut impliquer l'incertitude, la déception.
Merci beaucoup. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'espérance protège contre les découragements, contre le désespoir, parce que le désespoir ou l'espoir est humain. Voilà pourquoi l'espoir a des limites. J'espère que ce que je suis en train de faire va aboutir. Ça, c'est l'espoir. L'espoir porte sur ce que moi je veux, mais l'espérance porte sur ce que Dieu veut, sur ce que Dieu va réaliser dans ma vie. Voilà pourquoi, comme Dieu est fidèle, Dieu est tout-puissant, ce qu'il veut faire, il le fait, évidemment avec notre concours. Voilà pourquoi l'espérance ne trompe pas, parce que c'est par rapport à ce que Dieu veut faire. Mais l'espoir, c'est par rapport à ce que moi je veux. Or, moi je suis limité, je peux vouloir une chose et puis ne pas atteindre cela, ne pas le réaliser parce que justement je suis limité. Mais l'espérance nous fait tourner vers Dieu. Ça oriente nos cœurs et nos esprits vers le ciel pour accueillir la volonté de Dieu, pour accueillir ses promesses.
Avec quoi nourrir notre espérance?
Il y a la prière, bien sûr. Il y a la foi. Il y a la charité. Donc c'est une très très bonne question. Donc je nourris mon espérance par la prière. Je prie pour demander au Seigneur que sa volonté se réalise, que son projet sur ma vie se réalise, que ce qu'il veut par rapport à mon avenir puisse se réaliser. La foi nourrit aussi l'espérance parce que j'espère, puisque je suis en communion avec Dieu. La foi me permet d'être toujours en présence de Dieu, de rester en sa présence, en communion avec lui. Et voilà pourquoi la foi nourrit l'espérance. Comme je suis en communion avec Dieu, j'espère que ses promesses vont se réaliser parce que je vis en communion avec lui par la foi. Il y a aussi évidemment la charité. La charité nourrit l'espérance parce que, étant donné que Dieu voudrait que nous puissions afficher des comportements qui lui plaisent, et en étant charitable, je sais que je plais au Seigneur, et parce que je plais au Seigneur, J'espère que ces promesses vont se réaliser.
Quels sont les péchés contre l'espérance et que dire sur la présomption, car soit l'homme présume de ses propres forces pour obtenir le salut, soit il présume de la miséricorde de Dieu pour obtenir son conversion sincère.
Le péché contre l'espérance, c'est d'abord le découragement, le désespoir, le pessimisme, le scepticisme. Ça, ce sont les différentes attitudes humaines qui s'oppose à l'espérance. Je le répète, sans être exhaustif, hein, je ne suis pas exhaustif dans ce que j'ai dit, mais je dis, il y a le désespoir. Quand vous commencez à désespérer, eh bien, sachez que vous avez perdu l'espérance. Parce que on ne peut pas désespérer. Dieu est Dieu. Ce qu'il veut faire, il est fait. Nous devons simplement collaborer pour que ses promesses se réalisent. Et à part le désespoir, il y a le découragement. Découragement, c'est pire que le désespoir. C'est-à-dire, le désespoir prend comme visage le découragement. D'abord, le désespoir. Quand le désespoir s'installe, eh bien, bientôt, vous allez vous décourager. Vous n'allez plus prier. On ne vous verra plus en train de faire le bien, d'aller visiter le malade, parce que vous dites, mais j'ai fait ça depuis longtemps, qu'est-ce que ça m'a rapporté? On se décourage. Ou encore le pessimisme, c'est-à-dire j'ai l'impression, je crois que les choses ne vont plus marcher. Je suis vraiment pessimiste. Ça, c'est contre l'espérance aussi. Ou le scepticisme. Le scepticisme, c'est un peu comme le découragement vient du désespoir et le scepticisme vient du pessimisme. Ou le contraire, comme vous voulez, ça dépend de l'école philosophique à laquelle vous appartenez, mais peut dire le scepticisme engendre le pessimisme ou c'est le contraire. Peu importe. Mais les deux, en tout cas, sont des péchés contre l'espérance.
081 99 66 098. Père, la deuxième partie de la question d'Arsène sur la présomption.
Évidemment, la présomption, merci beaucoup, la présomption, c'est contre l'espérance, parce que beaucoup vivent un peu la présomption aujourd'hui sans le savoir. C'est-à-dire le fait de croire que, bon, j'espère, mais ça ne sert à rien que je fournisse des efforts. J'espère que Dieu va faire ce qu'il veut faire sans moi. Ça, c'est la présomption. Et donc, on croit que, bon, on mise sur la miséricorde de Dieu, mais on ne fait pas l'effort qu'il faut pour que la promesse de Dieu se réalise. Voilà pourquoi j'avais commencé par la façon dont les Juifs concevaient l'espérance, notamment à l'époque de Jésus. L'espérance messianique impliquait la prière au mur des lamentations, par exemple, mais l'espérance messianique impliquait aussi un engagement concret, c'est-à-dire la conversion, la pureté, la sainteté. Alors, la présomption, c'est miser sur la miséricorde de Dieu, en disant qu'il est tout puissant, il va faire ce qu'il veut sans se convertir. On ne se préoccupe pas de sa conversion, mais on espère que Dieu va tout faire à ma place. Alors là, c'est ça la présomption, et c'est aussi une attitude ou un péché contre l'espérance.
Eric Yamboka, depuis la paroisse Saint-Poncien à Ngondwe, Père, l'espérance, on espère en quoi? C'est sa première question.
Oui, on espère que Dieu va réaliser ses promesses. Et parmi les promesses de Dieu, il y a ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean. Il dit, je vais vous préparer des places chez mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Je viendrai vous prendre pour que chacun occupe sa place. Ça, c'est la raison fondamentale de notre espérance. Qu'un jour, je vais retrouver le Seigneur dans cette vie éternelle caractérisée par le bonheur parfait et définitif. J'espère cela. Et d'autres objets de l'espérance doivent découler de ça. La plus grande espérance, c'est Jésus. C'est-à-dire vivre en communion avec lui pour l'éternité au ciel. Ça, c'est l'espérance. Maintenant, d'autres choses que je cherche. Je peux chercher le boulot. J'espère que j'aurai le boulot. Mais il faut que cette espérance que j'ai soit ordonnée à la grande espérance, c'est-à-dire le ciel. Alors, dans ce cas-là, j'espère que j'aurai le boulot pour que je puisse vivre une vie qui plaise au Seigneur, en ayant un peu de moyens, en pensant aux pauvres, par exemple. Quand j'aurai le boulot, j'aurai un peu plus de moyens, je vais assister les pauvres, les malades, les prisonniers. Alors là, en ce moment-là, cette espérance-là, qui est une petite espérance, n'est-ce pas? Si vous lisez Spes Salvi Sauvé dans l'espérance de Benoît XVI, vous allez voir qu'il distingue toutes ces choses. Il y a la grande espérance et le Christ. Alors, nos petites espérances doivent viser le ciel, doivent viser le Christ. J'espère que vous espérez que vous allez vous marier. Mais en vue de quoi? Je veux me marier en vue du ciel. Parce que quand je veux me marier, je vais aimer mes enfants, je vais montrer à mon conjoint, à ma conjointe, un amour désintéressé. Alors là, vous situez cette petite espérance que tu as, qui a une dimension sociale, dans le contexte de l'espérance à laquelle qui est l'objet de l'objet de l'espérance, j'allais dire, que nous devons tous promouvoir, c'est-à-dire le ciel. Donc tout ce que vous espérez personnellement doit vous aider à accomplir, n'est-ce pas, vos devoirs pour qu'un jour vous alliez au ciel. Donc ça, c'est très important. Parce que quand nous disons que bon, l'espérance, c'est des promesses de Dieu qui doivent se réaliser, quelqu'un dit, mais moi, j'ai l'espérance que j'aurai le boulot. Est-ce que ça, c'est du domaine du désespoir? Non, ça doit être du domaine de l'espérance. Parce que en ayant le boulot, nous espérons, et ça doit être une conviction, qu'en ayant le boulot, vous n'allez pas vous éloigner du Seigneur. Le boulot doit vous rapprocher davantage du Seigneur. Ben, j'espère que j'aurai les mariages. Ok. Il faut situer ça dans le cadre de cette espérance qui consiste un jour à retrouver le Seigneur au ciel. Qu'en ayant le mariage, en me mariant, ça va m'aider à être davantage fidèle au Seigneur pour qu'un jour j'aille au ciel. Ben, je vais voyager. Bon, admettons cela. Je vais voyager, aller au nord. Bon, c'est une espérance qui ne porte pas sur la réalisation de promesses de Dieu. Mais si Dieu le veut, alors en ce moment-là, en allant plutôt là où vous devez aller, il faudrait que votre présence là-bas vous rapproche du Seigneur, vous aide un jour à aller au ciel. Donc en fait, notre vie doit être ordonnée au ciel, doit être orientée vers le paradis. Tout ce que nous désirons dans nos prières devrait être des grâces qui devraient nous rapprocher de Dieu. Alors là, vous verrez que ce que nous désirons va nous aider à réaliser la grande espérance qui est celle de se retrouver un jour au ciel dans la communion avec Dieu et avec tous les saints.
Alors, une portion, disons, vous avez dit espérer aux promesses de Dieu, notamment la vie éternelle à l'amour de Dieu. Père, mon constat est que toutes ces promesses ne sont que spirituelles. D'où la question, on ne doit pas espérer au bonheur, à la prospérité des biens matériels?
Mais oui, merci beaucoup. Hein. C'est pratiquement ce que je venais de dire. Hein. Et j'ai eu à le dire parce que je ne voudrais pas qu'on spiritualise trop l'espérance. Il ne faut pas spiritualiser trop l'espérance parce que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des humains. Nous avons l'âme et le corps. L'âme a ses besoins, le corps aussi a ses besoins. Et donc, il faut espérer. Espérez ce que vous voulez parce que ce que vous voulez, c'est peut-être aussi la volonté de Dieu. Le mariage, avoir le mariage, avoir le boulot, avoir un peu plus d'argent, c'est votre volonté et c'est peut-être aussi la volonté de Dieu. Et donc, il faut espérer tout cela. Mais, comme je disais, il faut que ce que vous espérez sur le plan social vous rapproche de Dieu. De façon que ce que vous espérez sur le plan social soit orienté à l'espérance ultime, c'est-à-dire le ciel.
Félicien Katumba Demarie, depuis Saint-Pédis, Ngiringiri, que pouvons-nous utiliser comme support pour soutenir notre espérance, vu que nous sommes de fois confrontés à beaucoup d'obstacles dans notre espérance?
Oui, et bon, il faut utiliser comme support la prière. C'est-à-dire ce qui soutient l'espérance, c'est d'abord la prière. Ce qui soutient l'espérance, c'est aussi votre propre vie. Hein, vivre en plaisant au Seigneur, mener une vie qui plaît au Seigneur. Ce qui soutient l'espérance, c'est aussi la foi. C'est-à-dire rester en communion avec Dieu. Ce qui soutient l'espérance, c'est aussi la charité. Parce que si vous pratiquez le bien, vous faites le bien sans relâche, comme disait Paul, hein, faites le bien sans relâche. Eh bien, ça nourrit l'espérance.
Que dire des paroles de Job lorsque le prophète Jérémie lui dit de maudire le jour de sa conception et de sa naissance?
Les paroles du prophète ou de Job?
Il dit les paroles de Job.
Oui.
Où le prophète Jérémie lui demande de maudire.
Oui, bon, mais Job a toujours été considéré comme quelqu'un qui est modèle hein, dans nos épreuves, surtout quand on souffre. Mais ce qui est très important, c'est de situer Job dans l'ensemble, parce qu'il nous apprend. Job est en train de traverser une crise où il évolue. Du début de son livre jusqu'à la fin, on voit l'évolution. C'est vrai que quand il dit « maudit soit le jour de ma naissance », bon, ça c'est une attitude qui est déjà un peu négative. Hein. C'est comme si c'est contre l'espérance. Mais on ne peut pas les juger par rapport à cette étape dans l'évolution de son itinéraire spirituel. Parce qu'à un certain moment, Job ne parlera plus, va se taire. Il s'était pour écouter Dieu. Et après avoir écouté Dieu, il s'est repenti. Et après sa repentance, Dieu lui a remis plus que ce qu'il avait. C'est-à-dire le bonheur qu'il avait sur le plan social et tout ça. Eh bien, c'était revenu plus que ce qu'il avait auparavant. Donc, finalement, la leçon que nous devons retenir du livre de Job, ce n'est pas qu'il a maudit le jour de sa naissance. Parce que ça, ce n'est qu'un chapitre, un petit chapitre dans les grands livres de Job. Même un petit verset, j'allais dire. Mais ce qui est important, c'est que Job, dans la souffrance, d'abord, il réagit. Il réagit en parlant. Il discute avec ses amis. Ça, c'est la première étape dans la crise de Job ou dans son itinéraire spirituel. C'est la réaction. Et ça, c'est normal. Nous tous, dès que vous êtes éprouvés, affligés, vous réagissez. Et en réagissant, chacun réagit à sa manière. Il y en a qui commencent à dire, mais Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement maintenant? Donc, il y a des réactions pareilles. Et Job n'a pas échappé à cela. Alors, après avoir réagi, après avoir cherché à comprendre le pourquoi de sa souffrance, sans comprendre, parce que la souffrance est parfois un mystère, vous ne comprendrez jamais, jamais, jamais pourquoi vous souffrez. Vous ne comprendrez pas ça à 100%. Il y a toujours quelque chose qui échappe. La deuxième étape, Job se tue. Il ne parle plus. Il veut écouter le Seigneur. Et donc, il nous apprend par là que devant les épreuves, il faut se taire parfois et puis écouter la parole de Dieu qui vous console. Alors, Job s'est mis à écouter. Il s'est tué et Dieu a parlé, lui a dit, mais quand je créais le ciel, où étais-tu? Quand je créais le Léviathan, les monstres marins, où étais-tu? Donc, Dieu a parlé, Job a écouté. Après avoir écouté, Dieu a dit, pardon, pardonne-moi Seigneur. Je vois que tu es grand, tu es merveilleux. Ça, c'est la troisième étape. Après l'écoute, c'est l'action des grâces, la reconnaissance de la grandeur de Dieu, même s'il est dans la souffrance. Et après la reconnaissance de la grandeur de Dieu de la part de Job, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. On est déjà à la fin du livre, hein, au chapitre 42e, et là, le Seigneur remet à Job tout ce qu'il avait perdu, et même plus que ce qu'il avait perdu.
Comment faire vraiment pour savoir que mon espérance portera de fruits?
Mais il faut simplement espérer. L'espérance s'auto-justifie. J'espère, mais qu'est-ce qui fait que tu espères? C'est parce que j'espère. Parce que l'espérance ne déçoit pas. Paul a trouvé la réponse qu'il faut. Comment savoir que ça portera des fruits? Je suis sûr et certain que ça portera des fruits. Parce que l'espérance chrétienne ne déçoit pas. Mais il y a deux conditions. D'abord, ça doit être conforme à la volonté de Dieu. Même si c'est ce que je vise sur le plan social. J'espère obtenir un bon boulot, j'espère obtenir un bon salaire, j'espère avoir des enfants, pour des couples sans enfants évidemment, j'espère avoir un mariage pour ceux qui ne se sont pas encore mariés, j'espère avoir telle grâce, j'espère que mon dossier va bien évoluer, etc., etc. Alors, toutes ces petites espérances-là, j'allais dire ainsi, qui ont une dimension sociale, horizontale, doivent être orientées vers la grande espérance. C'est-à-dire, tout ce que je cherche, ça doit m'aider à aller au ciel. Ça doit m'aider à viser le ciel, à viser le paradis. Que j'aille le boulot en vue du paradis. comme dit le texte de Luc, être riche en vue de Dieu. Que j'aie de l'argent en vue du paradis, que j'aie le mariage en vue du paradis. Et donc, c'est comme cela qu'il faut vivre l'espérance dans sa dimension sociale. Et tout ce que je veux socialement, ça doit me préparer à aller au paradis. Voilà pourquoi certains font des promesses, en fait. Ils disent, bon, Seigneur, en tout cas, je suis en train de prier. Si j'ai une promotion, j'ai beaucoup d'argent. Je promets que je donnerai ma dîme chaque mois. Je promets que j'aurai une rubrique dans mon budget pour aider les pauvres, pour aider les nécessiteux. Je promets que je vais défalquer un pourcentage à donner à l'église pour qu'on finisse la construction de l'église à la paroisse. Donc, en fait, c'est ça un peu ça. La dimension sociale de l'espérance est vécue en nous orientant vers le ciel. Il y en a qui vont même plus loin et disent, bon, si vous me faites ça, Seigneur, eh bien, je promets que jamais, jamais, je raterai la messe du dimanche. Jamais, jamais, je n'oublierai. Donc, en fait, ce sont des promesses que les gens font pour montrer qu'ils cherchent une grâce sur le plan social, mais ils voudraient que cette grâce-là l'aide un jour à aller au ciel.
Le frère Joss Mokolo. Bonjour Père Roger Wawa et merci beaucoup pour cette magnifique catéchèse. Je n'ai pas de questions à poser, mais juste un complément. L'espérance est comme le palmier, un arbre qui pousse même dans le sol aride, sur un sol aride. Il ne cède pas au vent violent. Il reste debout aux épreuves.
Merci beaucoup. Bon, Joyce, c'est un théologien. Il est étudiant en théologie, l'un de mes étudiants en théologie. Je crois que maintenant, il est en train de finir sa licence, comme on appelle ça maintenant. Il doit être en troisième année maintenant. L'année prochaine, il commencera le master. Donc, merci beaucoup à mon étudiant.
On écoute Joseph Temari.
Bonjour, Maman Régine. Bonjour, mon père. Et merci beaucoup pour cette très belle catéchèse, l'espérance. D'abord, une petite observation, mon père. Est-ce que l'espérance peut-elle être justifiée rationnellement? Parce que je vois là vraiment nous expliquer en long et en large sur le plan exégétique, c'est-à-dire sur le plan rationnel. Est-ce que l'espérance peut-elle être justifiée rationnellement ou elle repose plutôt et uniquement sur la foi? Je donne un exemple. L'espérance qui repose sur la foi a-t-elle un lien avec ma quête de sens? Lorsque, par exemple, je veux comprendre qui est Dieu, d'où vient-il, que me veut-il, est-ce que cette quête de sens-là a besoin de l'espérance en amont, en ce Dieu-là, en qui je ne comprends pas encore d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, que me veut-il? Ma deuxième petite question, mon père. Nous avons tout quitté pour te suivre, dit Pierre à Jésus. Alors, cette phrase-là de Pierre, face à l'espérance, voici une question. Est-ce que l'abandon des biens matériels que soulève ici Pierre est un signe d'une recherche d'un sens profond lié à l'espérance? Et enfin, mon père, lorsque j'évoque le vocable espérance, parce que vous expliquez l'espérance seulement sur le plan théologique, voire même exégétique, mais lorsque je place ce même vocable qu'est l'espérance autour du carrefour entre philosophie, théologie et même pourquoi pas psychologie, je me pose cette question. L'espérance est-elle un simple sentiment? Est-ce c'est une vertu tout simplement? Est-ce c'est une force motrice ou un simple concept philosophique, comme pourrait mieux le dire Alex, le philosophe, qui est longtemps incognito sur les ondes mariales et que je salue en passant? Deuxième sous-question, comment l'espérance se distingue-t-elle du pessimisme? Merci beaucoup, mon père. Je reviens en Lingala.
Merci à Joseph.
Merci beaucoup à Joseph de Marie. L'espérance et la raison. C'est comme la foi et la raison. Merci de poser cette question. C'est-à-dire que l'espérance se comprend et doit être passée au crible de la raison. Parce que quand on espère, on doit avoir des raisons d'espérer. Et la première raison d'espérer, c'est que Dieu est fidèle. J'espère parce que Dieu est fidèle, il ne se trompe pas, il ne peut pas non plus nous tromper. Il y a aussi d'autres raisons d'espérer. Parce que moi-même, je me suis impliqué. Je sais que Dieu est fidèle et donc ses promesses vont se réaliser. Et d'une autre raison d'espérer, c'est parce que moi-même, je m'implique. Je prie et je fais ce que je dois faire pour que les promesses de Dieu se réalisent. Mais, comme on l'avait dit pour la foi, ce sont des vertus théologales, donc des vertus qui nous rattachent à Dieu. Par conséquent, la raison est aussi limitée. Parce que notre espérance peut nous surprendre au-delà de la raison. C'est ça. Il y a des moments où Dieu vous donne plus que ce que vous aviez espéré. Et il y a des gens qui pleurent, des larmes de joie, parce qu'ils disent « mais je ne m'attendais pas à ça ». J'avais demandé ceci au Seigneur, il m'a donné plus. En ce moment-là, c'est plus que ce que la raison pensait. Donc la raison, c'est vrai, la raison éclaire notre espérance, peut justifier certaines pratiques liées à l'espérance, mais la raison est parfois surprise, ou pris à contre-pied par l'espérance. Lorsque Dieu vous donne plus que ce que votre raison imaginait. Alors, nous avons tout quitté, ça c'est Pierre, hein? Mais où est l'espérance dans tout cela? C'est-à-dire que, comme disait saint Thomas d'Aquin, il faut le minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Et je crois que la question de Pierre est un peu à comprendre dans ce sens-là. Pierre est déjà rattaché à Jésus par la foi. Il espère qu'un jour il ira au ciel, au paradis, avec Jésus, ça c'est sûr, parce qu'il est proche de Jésus. Mais il y a aussi des pesanteurs d'ordre social, c'est-à-dire il a femme et enfant. Voilà pourquoi il pose des problèmes. Ça c'est un peu, il voudrait que Jésus tienne compte de la dimension sociale de l'espérance. L'espérance a aussi une dimension sociale qu'il ne faut pas oublier. Alors, c'est ça la question de Pierre. Nous avons tout quitté. Nous avons laissé, lui a laissé sa famille, femme et enfant. Il s'est attaché à Jésus à cause de la grande espérance, c'est-à-dire le ciel, le paradis. Maintenant, l'essor de sa famille. Cette dimension sociale de l'espérance. Et Jésus répond. Il ne dit pas que non, il faut oublier ça. Et Jésus n'a pas dit qu'il faut oublier la foi. Il dit non, vous aurez la réponse ici sur terre. Vous aurez femme, enfant, donc ne regrettez pas. Eh bien, le Seigneur fera quelque chose pour eux. Et puis, après, vous aurez aussi la vie. Donc, Jésus promet, en fait, c'est très important, la question de Joseph de Marie, ça ouvre des horizons. C'est-à-dire, ce que Jésus promet, ce n'est pas seulement le ciel. Il promet aussi même le bien-être ici sur terre. Et donc, on ne peut pas exclure ça quand on parle de l'espérance. Il y a toujours cette dimension sociale de l'espérance. Mais ce que nous cherchons par rapport à notre vie pour améliorer nos conditions de vie ici sur terre devrait nous aider à aller au ciel. Il faut que la dimension sociale de l'espérance soit ordonnée à l'espérance du paradis, du royaume des cieux, la vie éternelle. Maintenant, après, il y a une question sur... Non, l'espérance, c'est plus qu'un sentiment, c'est une vertu. La vertu, ça vient de vir, c'est-à-dire homme. C'est-à-dire, c'est qui fait qu'on est ce qu'on est, on est chrétien. Donc, l'espérance fait partie de l'ADN du chrétien. On ne peut pas être chrétien sans avoir l'espérance. On ne peut pas être chrétien sans avoir la foi. On ne peut pas être chrétien sans pratiquer la charité. Voilà pourquoi ces vertus théologales, en fait, sont des vertus que Dieu infuse en nous. Donc, tout chrétien, de par le baptême déjà, eh bien, tu reçois la grâce de la foi, de l'espérance et de la charité. Donc, ça fait partie de notre ADN. C'est une force motrice, bien sûr, oui, parce que c'est au nom de l'espérance que nous pratiquons la charité. Nous pratiquons la charité parce que nous espérons. Alors, le pessimisme, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc c'est l'un des péchés contre l'espérance, avec le scepticisme. Le pessimisme, c'est croire que ça ira mal. Le scepticisme, c'est plus une attitude d'esprit, c'est-à-dire je doute que ça ira. Ça, c'est le sceptique. Le sceptique doute. Il vous demande des preuves. Il dit, je doute que ça ira. Je pense que ça n'ira pas. Si tu veux, montre-moi des preuves pour que je croie que ça ira. Ça, c'est le scepticisme. Le pessimisme, c'est plus radical. Il dit, moi, je crois que ça n'ira pas. Il n'a même pas besoin qu'on lui dise le contraire. Il dit, je crois que ça n'ira pas. Mais le sceptique, c'est une attitude philosophique. Voilà pourquoi il est plus ouvert, un sceptique. Il dit, moi, je doute que ça ira. Et si tu veux me convaincre, montre-moi les preuves. Et donc tout ça, eh bien, c'est des pesanteurs par rapport à la foi, plutôt à l'espérance.
Gaël Moussema, depuis la paroisse Marie-Auxiliatrice, mes cordiales salutations au Père. La question, si l'espérance ne trompe jamais, alors nous pouvons conclure que chacun a une destinée.
Ah, mais oui, c'est-à-dire que Dieu a un projet pour chacun de nous. Il y a un projet pour chacun de nous. Et ce projet-là ne tient pas compte de l'âge. Vous pouvez avoir 80 ans, mais Dieu a un projet sur vous. Et ça ne tient pas compte non plus des conditions de vie. Vous pouvez être en prison, mais Dieu a un projet sur vous. On a vu des prisonniers sortis de la prison, après ils ont connu l'ascension sociale. Vous pouvez être malade à l'hôpital, mais Dieu a un projet pour vous. Il y a toujours un avenir pour chacun de nous. Il y a des gens qui pensent que l'avenir est maintenant supprimé. Non, c'est vous qui pensez ainsi. Ou bien c'est nous qui pouvons penser ainsi des autres, que celui-là n'a plus d'avenir. Mais Dieu a toujours un avenir pour chacun de nous. Et nous appelons ça, pour être en termes spirituels ou théologiques, on dira, les projets de Dieu sur chacun de nous existent. Peu importe les conditions, que vous soyez en prison, que vous soyez malade, que vous soyez jeune, vieux, déjà avancé en âge, Dieu a un projet sur vous. Vous voyez la lecture d'aujourd'hui, Gédéon, n'est-ce pas? Gédéon, lui, bon, d'abord par rapport à son peuple est humilié par les Madianites. Les Madianites ont envahi le pays et les Juifs n'avaient pas d'arguments, ni diplomatiques, ni militaires. On les a battus à plate couture par les Madianites. Ils sont humiliés. Mais qui va sauver ce peuple? Bon, Gédéon, dans le contexte de son pays, il dit, bon, il n'y a plus d'avenir. Les Madianites sont très forts. Et qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a plus d'avenir par rapport à mon pays, par rapport au royaume. Mais lui-même aussi est dans un contexte familial qui fait que, aux yeux des humains, il n'a pas de chance. Alors il dit, mais mon clan, plutôt ma tribu, c'est une tribu qui n'est pas aussi renommée que d'autres tribus d'Israël, Manassé. Et puis les clans, mon clan, c'est un petit clan. Et moi-même, je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est ça ce que Gédéon dit dans les livres des juges. Alors Dieu lui dit, plutôt l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi. C'est ça le projet de Dieu. Et en commentant ce texte à 5 heures du matin, je lui ai dit, écoutez, vous êtes en prison, le Seigneur est avec vous. Vous êtes malade. Donc, il y a un projet. Quand il dit, le Seigneur est avec toi, c'est que toi, tu te crois petit. Tu crois que tu n'as plus d'avenir. Mais l'ange du Seigneur te dit, le Seigneur est avec toi. C'est que pour Dieu, tu as un avenir. Il a un projet avec toi et pour toi.
Merci Père, on va terminer cette première partie par ce message de Jean-Paul depuis Limité. Bonjour Père Roger et Maman Régine. Père, comment expliquer que ceux qui prient beaucoup, s'ils font une demande, Dieu n'agit pas facilement par rapport à ceux qui ne prient pas? Est-ce que Dieu aime que nous soyons tous comme ceux qui ne prient pas pour que nos prières soient exaucées?
Non. Bon, je ne sais pas sur base de quoi notre auditeur ou auditrice dit cela. Bon, parfois on a l'impression que les méchants prospèrent. Les méchants, mais c'est dans les psaumes. Hein? Les méchants prospèrent plus que les justes. Alors on croit qu'ils prospèrent parce que Dieu exauce ses prières, mais pas nécessairement. Il peut qu'ils prospèrent non parce que Dieu exauce ses prières, mais parce qu'il a d'autres voies qui ne sont pas les voies du Seigneur pour s'enrichir. Et donc là, il faut que ça soit clair que ne jugez pas les gens par rapport à la prospérité matérielle. Parce que quelqu'un peut être prospère matériellement, financièrement, parce que Dieu lui a donné. Donc Dieu a exaucé sa prière. Mais il peut aussi l'être, non parce que Dieu le lui a donné, mais parce que ce sont des biens mal acquis. Et donc, on ne peut pas juger comme ça à partir de l'extérieur. Dieu seul sait, et le cœur de chacun est témoin de ce qu'il fait. Et le cœur de chacun sait où est-ce qu'il a trouvé ce qu'il a. Est-ce que c'est parce qu'on avait prié, on a travaillé, et puis on s'est enrichi en travaillant et puis en comptant sur la grâce de Dieu, ou bien on a fait autre chose. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Je crois que la question repose un peu sur ce constat-là. Mais bon, Dieu nous exauce quand il veut, comme il veut. Il est vrai que vous pouvez prier pendant un mois, vous n'avez pas encore la suite, mais vous pouvez aussi prier juste un « Je vous salue Marie » et Dieu vous répond. Parce qu'il est tout puissant, il est souverain, il fait ce qu'il veut, mais tout ce qu'il veut, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien.
Je crois qu'on va prendre un appel. Allô?
Allô, maman Régine.
Oui, bonjour, papa.
Oui, bonjour, mon frère.
Et bonjour, Bissing.
Cher Julien. Voici ma question un peu, maman Régine et mon père. Pourquoi homme riche est allé avec tristesse, mon père? Car il cherchait une réponse à Jésus. Ma deuxième question. Mon père, et tant que les chrétiens, nous les chrétiens, si nous résistons ce que la Bible, les Écritures saintes nous demandent à faire au regard des pauvres, les malheureux, ainsi de suite, est-il vrai que nous sommes des chrétiens, mon père? Car la Bible veut que nous vivons tous en même façon. Mais aujourd'hui, mon père, qui peut le faire? Excusez-moi, mon père. Les Écritures, c'est bien de dire qu'il donne tous ses biens aux pauvres, mon père. Je ne sais pas. Là, un peu, j'aimerais un peu vous me donner une explication claire. Merci, c'est bien Eric Bissingo, depuis paroisse Saint-Jean-Baptiste et Boum, et bonne continuité à tous.
Merci.
Merci beaucoup à notre frère bienheureux Bissingo de Saint-Jean-Baptiste. Hein. À Bumbu, nous saluons l'abbé Didier Mavoka qui est originaire de cette paroisse et qui est en vacances à Kinshasa à ce jour-ci. Et alors, il partit tout triste. La Bible a donné la réponse. Il partit tout triste parce qu'il avait des grands biens. Alors, quels sont ces grands biens? À première vue, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de biens matériels. Est-ce que ça suffit pour être triste? Quand on vous dit, pensez aux pauvres, et puis vous devenez triste parce que vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels, il y a peut-être autre chose. Quand on parle des grands biens, c'est au-delà des biens matériels. Comment savoir ces grands biens? Comment identifier ces grands biens? Il faut suivre la parabole qui vient après. C'est la parabole du chameau. Ou l'anecdote, hein, ce n'est pas une parabole. La parabole est plus élaborée. L'anecdote est souvent caractérisée par sa brièveté. C'est très bref. Il dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par les trous d'aiguille. Les trous d'aiguille, c'est quoi? Et les chameaux, c'est quoi? Trous d'aiguille, c'est des portes basses. Toutes les petites entrées s'appelaient trous d'aiguille. En commençant par l'une des portes d'entrée dans la ville sainte qui était très petite, très basse. Et puis, les maisons des pauvres n'étaient pas très élevées. Les portes étaient aussi très basses, très petites. On appelait tout ça trous d'aiguille. Ça, c'est la première chose. Trou d'aiguille, c'est des portes étroites. Le chameau, c'est un animal qui transporte des fardeaux, qui transporte des marchandises. Mais à part cela, il est très élancé, très élevé, pardon. Et puis il a une bosse sur son dos. Vous vous imaginez, il est déjà, il peut atteindre 2 mètres de hauteur. Il a une bosse qui est très remarquable. Il porte aussi des marchandises. Et donc avec tout ça, comment va-t-il passer par le trou d'aiguille? Mais il passait par des trous d'aiguille, c'est-à-dire par ses portes basses. Il faisait comment? On devait d'abord les dépouiller, les décharger. Il faut enlever les biens qui étaient sur son dos. Et puis il devait s'accroupir. Il entrait par les trous d'aiguille, par des petites portes, en position accroupie. Et tout est dit. Vous comprenez que les grands biens sont des biens matériels, c'est-à-dire ce que les chameaux portent sur son dos. Les grands biens, c'est aussi l'attachement aux biens matériels. Parce que les chameaux, pour passer par les trous d'aiguille, doit s'accroupir. C'est-à-dire, il doit s'abaisser. C'est l'humilité. Alors, ce qui manque à ces jeunes hommes, sans trop les juger, c'est d'abord l'attachement aux biens matériels et puis l'humilité. Parce que les chameaux passent parce qu'ils s'accroupissent, ils s'abaissent pour entrer dans les trous d'aiguille, passer par les trous d'aiguille. Et puis, on doit enlever la charge qu'il a. Alors là, il pourra passer. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est que Jésus demande, il nous demande d'être comme des chameaux, c'est-à-dire de nous dépouiller, et puis d'être simple, humble, de nous abaisser. Ça, c'est la condition pour entrer dans les royaumes des cieux. Maintenant, la question, deuxième question de Bisengo, est-ce qu'on peut vraiment faire cela? Donner tout aux pauvres, vous allez rester avec quoi? Mais il y a des gens qui ont fait ça. C'est-à-dire, ils ont renoncé à l'héritage familial pour suivre le Christ. Saint François d'Assise l'a fait. D'autres saints l'ont fait aussi. Dans l'histoire de l'Église, ils étaient des grands héritiers. Ils ont renoncé à l'héritage de leur famille. Et puis, ils ont accepté de mener une vie pauvre dans des couvents, dans des monastères. Donc, ils l'ont fait. Mais, quand Jésus l'a dit, c'est aussi de façon métaphorique. C'est-à-dire, il faut penser aux pauvres. Même si vous ne renoncez pas à tous vos biens, mais il faut penser aux pauvres. C'est-à-dire accomplir les œuvres de miséricorde.
Merci beaucoup, Père. On s'arrête ici pour la première partie. Un dernier mot.
Bon, le dernier mot, c'est l'espérance. Hein. Espérer contre toute espérance, car l'espérance ne déçoit pas.
Merci Père pour les enseignements. Merci à nos fidèles auditeurs qui étaient à l'écoute et qui ont participé à travers leurs questions. Merci aussi au réalisateur du jour, Jiresse Vango. Un mot de prière.
Volontiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Sois loué Seigneur parce que tu nous as donné l'opportunité de méditer sur l'espérance en cette année de l'espérance, en cette année jubilaire. Nous te prions Seigneur de veiller sur chacun de tes enfants, spécialement sur ceux qui ont perdu l'espérance. Jette sur chacun d'eux un regard de paix, de bonté et de miséricorde. Sur les malades, sur les prisonniers, sur les victimes de la guerre, notamment dans l'est de notre pays. Sur les pauvres, sur les nécessiteux. Sur les parents qui se préparent à la rentrée scolaire de leurs enfants. Veille sur chacun de tes fidèles, Seigneur. Donne à chacun l'espérance, la force d'espérer et de croire que tes promesses se réaliseront. La force d'espérer et de croire que chacun de nous a encore l'avenir, un avenir meilleur. La force de croire et d'espérer que tes promesses se réaliseront dans la vie de chacun d'eux. Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance, intercède pour tes enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Amen.